Bonjour à tous. Du coup, Stéphane, beau-frère de Michael, mari de Clémence, Clémence, sœur de Priscille, sœur d'Anaïs, il y a un petit air de famille. Donc, heureux de venir passer un week-end d'acré en famille. Oui, famille de sang, mais famille aussi de sang en Christ. Comment je me sens ce matin? On pourrait se dire, tiens, comment je me sens première fois que je prêche à l'église de Cré? Comment ils vont me percevoir, me regarder, examiner? Je me sens très bien. Toujours un peu de stress, ça c'est pas une première fois, c'est tout le temps. À chaque fois que je prends la parole au niveau de la parole de Dieu. Mais par contre, j'écris juste deux, trois petites choses pour vous dire un petit peu comment je me sens en venant à Cré. Je me sens en famille. Il y a 3 ans, on finissait notre stage en Belgique, mon pays d'origine, donc stage pastoral, et on était avec les CAEF, hein, une famille dont vous faites partie, pour voir un peu l'avenir. Et on est venu passer un week-end à Cré. On a récupéré notre chienne, hein, qui était gardée par Priscille et Michael, et on a découvert la Drôme, on a découvert l'église par un baptême. Et je vois mon frère, hop, juste en face, on était à ton baptême, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que il y avait beaucoup de personnes, mais moi je me rappelle, puisque oui, c'est toi. Et rappelle-moi ton prénom. Olivier. Et du coup, après on a fait un repas, j'ai remarqué qu'à l'église de Cré, ouais, il y avait le seul... sosie de Christophe Maé, je l'ai revu ce matin, il est encore là, donc tu vas bien, Michael, hein, Michael. J'ai découvert qu'on avait, il y avait une famille, une grande famille de France. Voilà, on avait un point commun avec la sœur de Benjamin, avec qui j'étais en Belgique dans la même église. Hop, on retrouve. Mais de toute façon, voilà, quelqu'un de la famille de Benjamin, vous pouvez en trouver partout en France, comme ils sont beaucoup. Mais vous voyez, à travers un repas, et puis il y a eu un camp. Premièrement, d'abord un camp, juste une soirée. Vertical Horizon, on nous demande de venir faire un Fort Boyard. Tiens, un Fort Boyard pour partager l'évangile. Eh bien oui. Et là, on a découvert une famille, une grande famille. D'abord, Henri et Frénie qui sont là, mais leurs enfants, petits-enfants. Et on s'est sentis très bien. Tellement bien qu'à la fin de l'été, il fallait quitter la Drôme. Et on s'est dit, Seigneur, mais ce serait peut-être chouette de reprendre le boulot ici. Et ça nous est venu hein, vraiment en tête. Hein, et de rester peut-être dans la Drôme. Mais c'était pas ça le chemin. Il fallait qu'on passe encore une année dans le sud, avec mon beau-frère qui est aussi, mon autre beau-frère qui est aussi pasteur ailleurs. Une année à retravailler, être avec mon autre beau-frère ailleurs, et encore une envie. Une autre famille en Christ, ailleurs, l'église baptiste de hier, de rester là-bas. Et ça donnait envie. Mais c'était pas encore le chemin de Dieu. Le Seigneur nous appelait au temps plein au niveau de Gap. Et nous sommes arrivés il y a 1 an et demi maintenant à Gap. Où ça se passe très bien, mais des fois, ça fait peur. Ça fait peur d'être en première ligne. Alors, merci Seigneur, en première ligne avec des anciens, avec un conseil d'église, dans la collégialité, mais quand même, ça fait peur. Mais au milieu de tout ça, et c'est aussi pour vous donner un peu des nouvelles de la famille, il y avait une épreuve. Il y avait une épreuve, quelque chose qui tardait. Mais voilà, on était mariés depuis... Bon, maintenant, on est mariés depuis 8 ans avec Clémence, mais ça faisait 5 ans qu'on essayait d'avoir un enfant. Garçon, petite fille, qu'importe, Seigneur, ce que tu nous donneras, on sera très content. Et voilà, pour vous donner des cibles, pour ceux qui ne savent peut-être pas, eh bien, Clémence est enceinte de 5 mois. Donc, on est aussi voilà, reconnaissant à Dieu pour ça, parce que c'est dans sa grâce, il fait ce qu'il veut. Et en fait, bien, il y a 2 petites filles voilà, dans le ventre de Clémence. Donc, bientôt, il y aura le cousin ou la cousine, hein, j'espère, bientôt, Anaïs. Mais tout ça pour dire quoi? On va pouvoir mettre la première... Alors, il y a une zapette où je peux vous demander par rapport au PowerPoint pour avancer quand... Sinon, je vous dis quand il faut avancer. C'est comme vous voulez. Ça va. C'est pas grave. Je vous dirai si... Tout ça pour vous dire quoi? C'est que je crois en la famille en Christ. Plus je l'expérimente... Alors, plus aussi, il faut se supporter. Mais plus je crois vraiment cette famille en Christ. L'année d'après, donc l'année après être venu l'été à Cré, on a fait un camp Vertical Horizon avec la grande équipe, avec Belinda, les enfants, Elliot, Timothée, Michel Castagno, Priscille et Mika. Je l'ai encore dit hier à Priscille, c'est le meilleur camp au niveau de ce qu'on a vécu, avec bien sûr les jeunes, mais aussi entre moniteurs, parce qu'on avait décidé de mettre le Seigneur au centre de ce camp et c'était juste incroyable. Alors il y a eu plein d'autres camps. On voit aujourd'hui maintenant, il y a des flambeaux. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose et on est très content en tout cas d'être là avec vous aujourd'hui à Cré. Et Cré, maintenant que je connais l'église de Gap, eh bien, j'ai fait des rapprochements cette semaine. Une église Alors, moins ancienne que Gap, puisque Gap, c'est une implantation de Grenoble, 40 ans, quarantaine d'années. Mais on n'est pas beaucoup plus nombreux. Par contre, je vois l'église devant moi, pas le bâtiment, ça, on s'en moque, même si c'est bien qu'on soit bien reçu, qu'on soit bien au chaud, et on est même très, on est bien au chaud. Donc, une église intergénérationnelle, située dans une petite ville. Alors, Gap, nous, on est un peu plus gros, mais on n'a pas Valence à côté. On est 40 000 habitants, 60 000 dans le Grand Gap, ils disent, mais je les cherche, les 60 000. Mais voilà, on n'a pas Valence à côté, on est seul. Ensuite, des groupes de maisons. Voilà, je parle avec Mickaël, des groupes de maisons. On aime bien un bon petit week-end d'église en famille, encore une fois, voilà, pour passer un temps, peut-être une fois tous les ans ou tous les deux ans. Et puis, certains, je parlais voilà, avec Aloïs, par exemple, qui me disait, ben, moi, je fais le REF. Nous aussi, à Gap, on envoie en formation pour le REF ou pour d'autres formations, des CFB. Culte pour enfants, voilà, de voir des moniteurs, des monitrices qui se lèvent. La jeunesse, des petits-enfants, des tout petits-enfants. Hier, j'ai rencontré pour la première fois Lucie. Et enfin, bien les flambeaux, un grand point. Donc là, c'est l'église, l'Assemblée du Rocher, hein, la famille en Christ du Rocher. Quand vous venez à Gap, venez nous dire bonjour. Et nous, le groupe, alors ce n'est pas les flambeaux, c'est les explorateurs éclaireurs de France. On est un peu plus nombreux parce que ça fait 20 ans maintenant que le groupe existe. Et je veux vous encourager, je vous dirai tout à l'heure à la fin du message. Mais ça, le flambeau, les flambeaux, alors, c'est de la dynamite, dans le sens où je découvre, comme vous, puisque ça fait qu'un an et demi que je suis là, et j'accompagne. J'ai d'abord été à un camp, et puis maintenant j'accompagne dans l'année. Je ne sais pas où il y a beaucoup d'endroits, je disais à Joachim tout à l'heure, où, vous savez, je vais être à Gap, je vais parler à quelqu'un, je vais lui parler de Jésus, et de comment Jésus se révèle dans sa parole. Ben, les gens ne vont pas trop vouloir écouter. Par contre, dans mon groupe l'éclaireur, où maintenant on est connu, il faudra le temps aussi pour les flambeaux de se faire connaître dans Cré, mais on sait qu'on peut avoir confiance, que c'est des gens de confiance qui gardent vos enfants, qui ont des bonnes valeurs, qui leur partagent l'évangile. Et quand je dis l'évangile, on leur partage, sortie après sortie, l'évangile. On en a 20, on a 22 jeunes au niveau des Louveteaux cette année, et plein de nouveaux cette année. Donc on démarre vraiment, ben, regarde la parole, parce qu'ils ne connaissent pas du tout la Bible, et ce n'est pas grave. Dieu, et puis cette année, on a choisi de faire Moïse, parce que Moïse a écrit le Pentateuque, et on a avancé comme ça. Et je me dis, mais c'est incroyable, Seigneur, de se dire qu'on peut leur partager l'évangile, et que les parents, ils ne disent rien. On prend une heure à chaque sortie, mais on prend le temps de chanter. Et dernière chose, ce qui est génial, c'est qu'on a un culte parents dehors, culte des scouts. Hein, je verrais bien ça chez Henri Frény, par exemple, ce serait bien. Et en fait, les parents viennent, et c'est une occasion pour nous d'annoncer l'évangile. Donc, c'est en tant que frère en Christ, pas juste de nom, mais je vous dis vraiment, priez pour les flambeaux de Cré. Investissez-vous si c'est votre don, mais des fois c'est juste, voilà, est-ce qu'il y a un camp pour faire la cuisine ou pour peut-être faire des allers-retours pour les jeunes. Mais je vous dis, franchement, je suis étonné de ce que je vois à Gap au niveau des flambeaux. Nous, c'est notre flambeau éclaireur, c'est la même chose. Nous, c'est vraiment notre pôle évangélisation en ce moment. Il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, on voit du fruit chez les enfants et plus tard, maintenant, on voit du fruit chez les parents. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et donc, vous dites, bah, tiens, il parle beaucoup, mais j'en viens à mon message. J'en viens à mon message, justement parce que, en réfléchissant, tiens, qu'est-ce que je pourrais amener à l'église de Cré par rapport à un message aujourd'hui. Voilà, je viens qu'une fois. Et en fait, je vous amène, en fait, adapté à l'église de Cré, le message que j'ai fait la semaine passée, à Gap. Pourquoi ? Ben parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui me travaille un petit peu l'esprit, du fait de la nouvelle qu'on a appris avec Clémence. Donc, je commence à lire des livres. Quand on a envie de maigrir, on lit un livre sur le régime. Quand on va devenir parent, ben, on lit un livre sur la parentalité. Et j'aimais bien celui-là parce qu'il est court, il est petit. Il est bien espacé, il est très pratique, il y a des bonnes questions. Et le chapitre 2, donc je n'ai pas été très loin, mais le chapitre 2 m'a mis une claque. Parce que quand tu as bientôt 40 ans et que tu vas être papa, tu sais que le trésor dont on parlait tout à l'heure, il peut vite se tourner. En plus, il y en a deux. Daniel, il y en a deux, alors un petit trésor, deux trésors. Et justement, quand je l'ai eu dans les mains, je me suis dit, tiens, j'ai envie que le trésor reste à la bonne place et que le trésor soit bien celui qu'on pense tous. Mais alors tu te dis, bah, tiens, ce matin, je ne suis peut-être pas papa, ou ils sont grands maintenant, ils ont même des enfants à leur tour, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, vous allez voir qu'on va rester aussi sur la famille en Christ. Et quel est notre rôle en tant peut-être que parents ou grands frères dans la foi pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos adolescents. Je pense à mon neveu Ethan qui a 14 ans, bientôt 15. Waouh, ça ne me rajeunit pas. Alors, on peut mettre le titre du message ce matin, les attentes de Dieu pour nos enfants. Les attentes de Dieu pour nos enfants. Et quand je dis nos enfants, je vois l'arche, dans le sens, on ne pense pas qu'aux tout petits. Je vous dis, maintenant, il y a des grands maintenant dans l'église de Cré. Et on s'appuiera tout à l'heure sur Deutéronome 6, 4 à 9. Mais d'abord, on va passer une petite photo. Je vais vous présenter quelques enfants. D'abord, eh bien, un premier enfant, Arthur, qui suit des cours de natation. Pauline, qui fait de l'escalade deux fois par semaine, parce qu'elle habite à Cré, on aime bien l'escalade à Cré. Emma, elle apprend du piano. Et Paul, il a une nouvelle console de jeu. Laura, ben, elle aime bien la danse. Et nous, plutôt, ben, ce serait Mickaël qui fait du ski tous les mercredis pendant la saison d'hiver à Gap. Mais maintenant, je vais vous présenter un seul autre, un autre enfant un peu plus particulier. Voilà Simon. Alors, c'est des enfants fictifs, hein. Mais Simon, je le connais un petit peu. Simon, je le connais un petit peu. C'est pas ses photos à lui, mais je le connais un petit peu. D'abord, on va parler de la famille de Simon. Claire, la maman de Simon, ne lui fait manger que des aliments bio. C'est une bonne chose, hein. Son mari est directeur d'école et dirige aussi le club de foot où son fils joue. Il fait même son propre pain une fois par semaine. Donc, des bonnes choses. Maintenant, allons vers Simon. Simon, il a 10 ans. Il suit des cours de guitare. Il joue au football deux fois par semaine, plus les matchs. Il fait des devoirs supplémentaires. Il fait partie d'un club de théâtre. Il prend des cours d'italien. Il participe au groupe local scout. Bonne chose. En fait, Simon, il a une activité pour chaque jour de la semaine, pour pas qu'il s'ennuie. Et dans la classe de Simon, il y a un autre enfant, et la maman de cet enfant, elle voit toujours Claire, la maman de Simon, toujours en train de courir partout pour déposer ses enfants aux différentes activités chaque jour de la semaine. Et cette maman, elle se dit, mais peut-être que je suis ce qu'on appelle une mauvaise mère. Peut-être que je devrais pousser mes enfants, eux aussi, à faire plein d'activités. Mais lesquelles ? Quel sport ? Quelle langue étrangère apprendre ? Est-ce qu'il faut des passe-temps chaque jour ? Mais quoi ? Et en fait, ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à nos enfants dans l'Église, dans la famille en Christ, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Qu'est-ce qui compte le plus ? Et qu'est-ce que la réussite selon Dieu pour eux ? Alors, peut-être à des moments, tu vas dire oh, « arrête de parler !» Le gros de mon message, le tient de ce livre, parce que c'était magnifique. Après, j'ai travaillé, et donc c'est pas moi, c'est pas que moi. Et puis, j'équilibrerai bien sûr mes propos. Mais je vous propose d'abord de lire Deutéronome 6, 4 à 9, petit passage de la parole de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Et en fait, si on veut, ben on a toutes les réponses dans ce passage et on arrête le culte et c'est fini. En fait, on a plein de bonnes choses pour nous dire voilà les priorités, voilà les attentes selon Dieu. Mais je vais bien sûr développer un petit peu. Et le premier point ce matin, c'est d'abord faire le constat nous-mêmes. Et je dis bien, pour nos enfants en général, même pour les enfants de Cré, qu'est-ce qu'on a comme désir pour les enfants de Cré ? Quelles attentes avons-nous pour nos enfants. Et on regarde, on voit une maman voilà, qui regarde son enfant en train de dormir et quel est son avenir ? Et je m'excuse, juste je fais une parenthèse, je vais juste enlever mon pull parce qu'il fait vraiment très bon, mais je n'avais pas repassé ma chemise, donc j'espère que je ne vais pas vous choquer. Voilà, merci de me mettre à l'aise. Et donc je tiens à dire d'abord que je me prêche à moi-même ce matin. Pas juste pour les enfants qui sont dans le ventre de Clémence, mais à Gap, on a aussi la grâce d'avoir beaucoup d'enfants comme vous, de tout âge. Et des fois, quand je regarde, on va voir quelles sont nos attentes à nous. Et première question, c'est que voulons-nous pour nos enfants dans le tout de suite là ? Une bonne éducation ? Une bonne alimentation ? De nombreuses activités extrascolaires, cours d'anglais, escalade, danse, cours de musique, ski, natation, skateboard. Moi, j'aime bien le skateboard. Donc peut-être, est-ce que c'est ça qui nous vient en premier ? Ou peut-être, allez, un peu plus loin, qu'espérons-nous pour nos enfants à créer ? Une bonne, de grandes études, une belle carrière, leur épanouissement personnel, un style de vie agréable, la sécurité, la santé, être propriétaire, un mariage heureux et des enfants, je ne dis pas, c'est des bonnes choses, hein. Ou même, on peut peut-être déjà, moi, mon père, il m'a toujours invité à penser à la retraite. Le problème, les amis, c'est que là, il faut prier, hein, pour que nos enfants, dans 60 ans, aient une bonne retraite, il faut vraiment prier, hein. Et en fait, ce qu'on va voir en répondant à ces questions sincèrement, c'est on va découvrir nos véritables valeurs qui se dévoilent souvent à travers de ce qu'on voit chez les enfants. Ce que tu projettes, en fait, ce que tu projettes sur leur vie va se dévoiler par rapport à ce que toi, il y a dans ton cœur. C'est pour ça que je vous dis que ça nous concerne tous. Alors, exemple, nous chantons le dimanche « En Jésus seul est mon espoir ». Connaître Jésus est la plus belle des choses. Mais souvent, nos attentes, nos priorités concernant nos enfants montrent ce qui compte le plus. Est-ce que c'est Jésus ? Jésus seul ? Ou par exemple, les compétences, le parcours scolaire, la carrière, ou même malheureusement dans l'Église souvent, le statut social. Qu'est-ce qu'il va avoir comme statut dans ce monde ? Et c'est certain, des fois on s'inquiète à juste titre des influences du monde qui pourrait venir, c'est une mauvaise influence qui pourrait venir sur nos enfants. Voilà, on peut penser, on est entre nous, entre adultes, le sexe, la drogue, la moquerie, peut-être, pour eux à l'école, au collège, ou même, un peu plus actuel, les mauvais influenceurs qu'il y a sur YouTube, qui pourraient amener dans nos enfants dans de mauvaises choses. Donc là, on s'inquiète pour l'influence des autres. Mais quelle est notre influence à nous ? Eh bien, alors que nos enfants sont sous notre toit, ou je veux dire, en tout cas, dans la famille en Christ, moi, je crois vraiment que c'est nous les premiers influenceurs réels de nos enfants. Mais selon nos priorités à nous, ça va se refléter sur leur propre vie. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que même dans l'Église de Jésus-Christ, il peut avoir des influences contraires à l'Évangile. Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais Stéphane, pour moi, connaître Dieu, c'est important. D'ailleurs, on vient chaque dimanche à l'église en église à Cré pour vivre ce moment. Mais ce qui compte pour nous, peut-être du lundi au vendredi, c'est obtenir un diplôme, gagner de l'argent, avoir des promotions dans notre carrière. En résumé, de réussir dans sa vie. Et le samedi, ce sont les plaisirs et les loisirs. Voilà. L'équilibre. Et puis le dimanche, bien sûr, le jour du Seigneur. Et je dis bien, ne soyez pas choqués, je vais équilibrer mes propos à la suite. Mais le premier verset va nous expliquer pourquoi je suis en train de dire cela. Et je le relis. Quelles sont les attentes de Dieu ? Écoute Israël. On pourrait dire, écoute Église de Cré. Écoute, je regarde les gens que je connais, famille Dufour, ou même écoute Stéphane. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Si vous connaissez un peu le peuple d'Israël, vous savez quelle était son habitude. Oui, Dieu est le seul. Et puis on se balade un petit peu. Oh, c'est sympa là-bas. Oh, c'est bien là-bas. Oh, c'est chouette leur Dieu là-bas. En plus, eux, on les voit, ils sont en bois, ils sont en métal. Et Israël, je suis le seul. Voilà, c'est ça que Dieu voulait dire. Je suis le seul. Et la question que je me pose ce matin, c'est est-ce que Dieu est bien le seul dans notre vie ? Et maintenant, par rapport aux différents domaines, parce qu'il faut travailler, il faut étudier, il faut être à l'école, est-ce que Dieu est bien au centre de tous ces domaines de notre vie ? Est-ce que quand je parle à mes enfants ou à nos enfants dans l'assemblée, est-ce que je leur demande « Tiens, mais où t'en es dans ta relation avec Jésus ?» Ou « Qu'est-ce que t'as vu ce matin au culte d'enfants ?» Ou « Qu'est-ce que tu vis au flambeau ?» Tiens, qu'est-ce que tu ressens ? Souvent, on a peut-être trop tendance, on doit le faire. Comment ça se passe à l'école ? Bonne chose, bonne question. Mais il n'y a peut-être pas que ça à poser comme question. Ou pire, ça je l'entends des fois dans l'église, quand il y a un ado, « T'as une petite copine à l'école ?» Je dis « Ouais, non, s'il vous plaît. » Mais Mais on me l'a fait quand j'étais jeune. Et alors, Stéphane, et les filles ? Dans l'église. Ok, cela nous aide. Donc vraiment, en fait, nos questions vont montrer ce que nous avons dans le cœur. Et cela ne concerne pas que les parents. Comme je vous dis, ça, c'est des questions qu'on peut faire dans l'accompagnement de nos enfants dans l'église locale. Et en fait, quand vous parlez avec les enfants, quand vous allez vous arrêter et parler avec eux, vous allez voir un petit peu les attentes de leurs parents. Je vous donne un exemple très concret, qui est le mien. À 13 ans, j'aspirais déjà toute la maison. Dans les petits coins, toute la maison. Je nettoyais la voiture une fois par semaine, intérieure et extérieure. Je tondais la pelouse, enlevais des mauvaises herbes. D'où cela me vient-il ? Je ne l'ai pas inventé tout seul. En fait, ma maman, qui était mère célibataire, mettait un gros accent sur ça. Et chez mon frère, ça n'a pas marché, mais chez moi, j'ai été preneur. C'est-à-dire que vraiment, ça m'a omnibulé toute ma jeunesse et j'avais besoin que tout soit propre à l'extrême. Maintenant, je me suis équilibré. Il y a Clémence, voilà, qui m'aide à m'équilibrer. Non, je rigole bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que ma maman, la pauvre que mon père était parti, avait quitté le foyer, elle aimait bien, voilà, elle avait à cœur ça. Elle nous parlait un petit peu de Jésus, mais on voyait ce qui résonnait dans son cœur. Propreté, rangement, qu'on reçoit, tout doit être impeccable. Oui, mais le problème, c'est que Stéphane, ça l'a tellement mangé que ça prend du temps. Ça prend du temps de tourner la pelouse. Alors, c'est bien, mais moi, c'était dans un extrême qui... Les devoirs, l'étude... parce qu'il fallait d'abord que la chambre soit propre avant que j'étudie. Mais c'était un mécanisme. Mais vous voyez, en fait, ça avait pris trop de place dans la vie de ma maman et elle me l'a transmis. Et ne vous inquiétez pas, je lui pardonne. Non, mais bien sûr. Mais il faut reconnaître les héritages que nous avons. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Allez, je regarde Benjamin, mais c'est tout le monde. Si je vous demande d'imaginer, dans 20-25 ans, les enfants de l'église de Cré, qu'est-ce qu'on aimerait bien voir ? Je pense même à tous les camps vertical horizon. Si on revoit les enfants qu'on a vus il y a 20-25 ans, qu'est-ce qu'on a envie de voir ? Premièrement, je dis bien premièrement, c'est pas que ça ne doit pas avoir lieu, mais est-ce qu'il y a direct, qu'est-ce qu'il a fait comme étude ? Ah, est-ce qu'il est marié ? Est-ce qu'il a acheté une maison ? Oh, peut-être aussi qu'il aille, le dimanche à l'église, ça pourrait être chouette qu'il participe à une vie d'église. Et si c'est à Cré, c'est encore mieux. Ou deuxième réponse, en priorité, bien sûr, je dis bien, qu'il soit pleinement touché par la grâce, qu'il ait eu une nouvelle naissance, petit, à peut-être 6 ans, 14 ans, ou comme moi, 24 ans. Ah oui, il y a eu du temps perdu, mais prions pour que Dieu les touche tôt. Peut-être aussi qu'ils se mettent au service de l'Évangile, l'Évangile qui les a transformés. Alors, ce n'est pas toujours d'être à temps plein, non, d'avoir fait de bonnes études, mais ouais, de se dire, tiens, en plus de mes études, moi, je vais servir. Ah, j'ai des dons d'escalade, je vais aller vertical horizon. Ou j'ai fait les flambeaux quand j'étais petit, je vais aller servir. Ou simplement ouvrir la maison, accueillir les gens comme je l'ai vu dans l'église locale. Peut-être même qu'en étant étudiant, ils prennent du temps avec un autre étudiant qui est dans la difficulté parce qu'on voit Jésus qui sert et eux, ils ont envie de servir. Et en fait, cette réponse sincère quant à nos priorités, je dis bien, nous montrera ce qui compte le plus dans notre vie. Et je précise, parce que voilà, je vais équilibrer mes propos, qu'il n'y a aucun mal, heureusement, à encourager nos enfants à faire des études, à se lancer dans une carrière professionnelle, à se marier. Puisqu'on voit que la parole nous dit « il ne faut pas être paresseux ». Le mariage, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais attention que ces sujets deviennent ce qu'on appelle une idole. Aujourd'hui, nos idoles ne ressemblent plus à celles que le peuple d'Israël a vues. Ce ne sont pas des statues de pierre, quoique dans certains endroits dans le monde. Mais en France, souvent, ça va être nos idoles, là où on met l'importance des choses. Et le problème, c'est que face à une carrière professionnelle, face à un mariage, si on met tout dessus, même dans l'Église, ça peut être une idole acceptable, une idole respectable. Mais heureusement, la parole de Dieu vient en aide à nos cœurs idolâtres. Et c'est mon deuxième point ce matin. Les attentes de Dieu pour nos enfants, et je dis bien nos enfants qu'il nous confie, que vous soyez parents ou pas, un jour les enfants, ils vont faire leur propre route, ils vont suivre leur chemin, et donc Dieu nous confie en Église des enfants. Et je relis quelques versets de Deutéronome. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Ce qu'on peut comprendre, et c'est magnifique, c'est qu'en fait, Dieu est en train de parler de transmettre à la génération suivante à quel point notre Dieu est merveilleux et qu'il faut leur transmettre l'amour de Dieu. Oui, mais j'aimerais vous partager, on va attendre un instant, j'aimerais vous partager ce que le peuple d'Israël, qui a reçu d'abord ces paroles avant nous, ils en ont fait avec le temps. On peut le mettre, donc la suivante, voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces objets. Moi, ils me sont très familiers parce qu'avec Clémence, on a pu vivre en Israël pendant 2 ans, pendant nos études. Et la première fois que j'ai vu ces objets à gauche, les 2 premiers, donc c'est des téfilines. C'est un cordon en cuir que vous enroulez autour du bras avec une petite boîte qui contient, entre autres, ce passage de la Bible. Et le téfiline de la tête, c'est que vous venez le mettre sur la tête. Et pareil, il vient se mettre entre les 2 yeux, comme le texte le dit. Et en fait, il y a le texte dedans. Et après, vous priez. Et on était dans l'avion, et il y avait des juifs orthodoxes, ou plus simplement des rabbis Jacob. Vous voyez un petit peu le style, avec qui j'ai beaucoup de respect. Mais si vous voulez, un jour, à un moment donné, il était 5 heures du matin, on arrivait en Israël, et puis ils se sont levés dans l'avion, ils ont enroulé autour de leurs bras, mis entre leurs yeux, et ils ont commencé à prier. Troisième objet... Eh bien, vous voyez, ce texte qui dit « Tu les écriras sur les montants de ta porte », eh bien, ça s'appelle une mezouza à droite. Si vous voyez ça sur une porte d'un coiffeur ou d'une épicerie, c'est que la personne est juive. Et du coup, pareil, c'est le texte qui est mis dedans. Et en fait, c'est un peu... Avec le temps, c'est devenu du symbolisme. Le symbolisme n'est pas mauvais si ce qui est vécu dans le cœur est vrai. Et ça, c'est à chaque juif de voir ce qu'ils vivent réellement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir transformer les paroles de l'Éternel en symbolisme, en quelque chose de visible. Mais nous, les chrétiens évangéliques, ça ne nous arrive jamais. Hein. Pas de ça chez nous. Alors, je vais vous montrer. Alors, n'ayez pas peur, je vais expliquer mes propos. On montre l'image suivante. Premier objet, qui est très bien, je veux dire. Mais lorsqu'on s'installe, on loue notre premier appartement, on achète notre maison, qu'on loue ou qu'on achète, on rentre dans notre maison, moi je suis un chrétien. Passage de Josué 24, tac, 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 moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai la maison, j'ai l'appartement, on sert l'Éternel. Très bonne chose. Très bonne chose. Sauf que le texte, il parle du foyer, donc c'est-à-dire des habitants de la maison, de la tente, ou voilà, de la tiny house, ça parle du foyer. Donc, c'est une bonne chose de mettre ça sur notre mur, mais après, il faut le vivre. Et c'est une bonne chose de l'écrire sur le mur pour au moins peut-être se rappeler, de se dire où j'en suis. Ah, je me souviens, les premières années de ma conversion, avec mon foyer, c'était super. Avec mon église, c'était super. Mais aujourd'hui, donc encore une fois, pas de problème contre le symbolisme, il n'y a pas de souci. La deuxième, la croix autour du cou, ou plus politiquement correct, la croix, on aime bien, la croix huguenot, quoi. Donc aussi un beau symbole et qui permet souvent, je parle souvent avec les gens qui me disent, moi j'en ai pas, hein, mais ma belle-sœur en a une au cou et elle me dit souvent qu'elle travaille à l'hôpital, c'était toujours un bon moment pour que les gens disent, mais c'est quoi que t'as, parce que c'est pas une croix normale. Donc les gens posent la question, donc c'est une bonne chose, beau symbolisme. Mais est-ce que on en parle encore? Est-ce que quand la personne nous pose la question, est-ce qu'on dit, oui, j'ai pas le temps? Ou est-ce que vraiment on se dit, Seigneur, t'es en train d'ouvrir une porte là? Donc le symbolisme qui sert pour témoigner. Et enfin, Alors, c'est pas une des anciens cantiques, c'est une série de Bibles. Pourquoi une série de Bibles? C'est souvent qu'à la maison, moi, je sais de quoi je parle, j'ai pas une Bible à la maison. J'en ai quelques-unes. Et des fois, c'est ça aussi. On est des collectionneurs. Hein. J'entendais cette semaine à la radio, une personne sur trois, et ma femme, c'est deux. On est des collectionneurs, donc on doit faire attention. Mais même, on peut être des collectionneurs de Bibles. Différentes versions, différentes couleurs, différentes tailles, différentes langues, des langues qu'on ne parle même pas, mais au moins là. Mais le problème, on peut avoir plein de versions de la Bible, mais est-ce qu'on la lit? Est-ce qu'on la lit au moins? Alors il y a un temps pour tout. Des fois, c'est peut-être, c'est pas un message accusateur, c'est peut-être éloigné de cette bonne parole, comme on chantait tout à l'heure, qui va nous nourrir. Mais c'est important de se placer devant Dieu et de se dire, bah, tiens, mes 20 Bibles là, que j'ai à la maison, est-ce que j'en ai ouvert une derrière moi? Et je vais vous donner peut-être un petit conseil que j'ai essayé d'appliquer dans ma vie. Si tu as du mal à lire la Bible, si tu as du mal à commencer et à continuer, ne la range pas dans une bibliothèque. Laisse-la sur la table. Et laisse-la sur la table ouverte. Avec un marque-page, au moins, même si elle se referme, tu sais où tu en es. Et commence peut-être par un évangile. Les psaumes, comme on lisait tout à l'heure, pour recommencer. Mais vraiment, frères et sœurs, que ce soit pour nos enfants ou pour nous-mêmes, on l'a chanté tout à l'heure, on l'a dit, c'est elle qui va nous nourrir. C'est elle qui va nous nourrir. Le dimanche avec la prédication, la semaine avec le groupe de maison, mais jour après jour, un face-à-face avec Dieu. Et donc, regardez, tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras, ces commandements, à ta main, à tes mains, comme un signe. Et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Les amis, dans ce texte, je ne vois pas de symbolisme. Comme un signe, mais il n'y a pas de symbolisme. Il y a bien la puissance de la parole de Dieu qui est comprise et qui est mise en action. Les mains, elles représentent l'obéissance à la parole qui se met en action. Les mains, c'est l'action de la parole. Les yeux, la tête, quand on dit entre les yeux, eh bien, ça représente la réflexion, le discernement pour agir. Je lisais encore un proverbe ce matin qui disait, bah, tu as des projets, remets-le au Seigneur, et c'est ceux-là qui vont s'accomplir. Un projet, c'est pas je fonce, je suis chrétien, je fonce à tue-tête. Non, on va réfléchir ensemble. Je crois que les flambeaux, ça s'est monté petit à petit. Et la porte de la ville ou la porte de la maison, ça représente en fait le fait, à la porte de la ville, on pouvait annoncer des dames sagesse par la porte de la ville, dans les proverbes. On annonce un témoignage, on parle, mais ce n'est pas du symbolisme. Paul dira à des chrétiens de son époque, « Vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Eh bien, quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. » Il y a une réception de la parole, alors qu'il y avait des nombreuses persécutions, épreuves, et pourtant, ils ont agi. Ils ne sont pas laissés, allez, choses pas importantes, on y va ensemble. Et c'est ce que dit Paul. Moi, je veux vous encourager ce matin mais à vivre cela ensemble, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, comme dit la parole. Alors, on est dans le Nouveau Testament, dans la dépendance du Saint-Esprit. Et je crois vraiment que... Alors, l'avenir des enfants, il est entre ses mains. D'ailleurs, je disais ce matin, tiens, est-ce que chez mon beau-frère et ma belle-sœur, il y a ce texte? Alors, je ne l'ai pas trouvé, mais j'en ai trouvé d'autres. Psaume 37, verset 5. Remets au Seigneur l'avenir de tes enfants, de ta famille, et il agira. Seigneur, tu vas te charger de l'avenir de nos enfants. Mais nous, est-ce qu'on veut faire des compromis ou on veut vivre pleinement l'Évangile? Encore une fois, à travers tout ce que nous faisons, au travail, études, la balade, l'Église, la vie d'Église. Et en fait, pour terminer, avec un troisième point, eh bien, il faut voir aussi justement en nous-mêmes, avant de voir nos enfants, qu'est-ce qu'on a fait du trésor? Qu'est-ce qu'on a fait du trésor? Est-ce qu'avec le temps, ce trésor, il n'a plus la même saveur? Il n'a plus la même le même poids, le sens du précieux, comme on disait tout à l'heure. Eh bien, si on regarde ce passage du Deutéronome à la lumière de toute la parole de Dieu, bien sûr, eh bien, ça nous amène évidemment à Jésus et à ses paroles. Et voilà ce que dira Jésus. C'est la diapo suivante, Matthieu 13, 44. Il va comparer le royaume des cieux. Il dira, le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache à nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Quelle est la place dans ta vie de ce trésor? Maintenant qu'il est à toi, est-ce que tu le partages? Le montres aux autres? Le montres à tes enfants? À nos enfants dans l'Église? Et frères et sœurs, on va pas appeler des épreuves sur la vie de nos enfants. On va les chérir et on va prier pour que ce trésor un jour devienne une réalité dans leur vie. Mais on sait aussi qu'aimer Christ, pour vous qui avez de l'expérience, quand on aime Christ, quand on le chérit comme un trésor, quand on le sert, ça demande des sacrifices. Mais ces sacrifices, comme disait Paul tout à l'heure, ça devient un sujet de joie si Jésus est à la bonne place, si Jésus est notre trésor. Et encore une fois, nos enfants, ils ont besoin de nous voir vivre l'Évangile. Ils n'ont pas besoin qu'on leur mette la pression. Parce qu'en fait, sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acquitter, voilà, à contre-cœur, voilà, on le fait pour vous. Il y a besoin de discipline, bien sûr. Il y a besoin de leur montrer la voie. Mais ce qu'ils ont besoin de voir, c'est que nous vivons réellement les choses. Notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu est de vivre pleinement et de partager ce trésor que Jésus est pour nous. On ne peut pas convertir nos enfants. On ne peut pas les convertir. C'est l'Esprit qui le fait. C'est lui seul qui peut ouvrir leurs yeux par rapport à l'œuvre de Jésus. Mais on peut faire plusieurs choses. On peut leur transmettre ce qui compte le plus pour nous. Et je donnerai quelques pistes d'application juste après. On peut leur faire découvrir la valeur suprême de Jésus. Mais d'abord, il faut que ce Jésus, il ait de la valeur pour nous. Et on peut leur montrer l'exemple en vivant toujours plus pour lui, pour sa gloire, et aussi en famille, en église. Alors, quelques applications pour nous ce matin. Comment, du coup, peut-être, aller au niveau du foyer, comment vivre un peu plus intentionnellement par rapport à nos enfants et leur présenter ce trésor? Eh bien, je crois vraiment qu'au niveau du foyer, c'est de prendre du temps avec eux à travers un partage biblique. C'est des grands mots, hein, partage biblique. Mais des fois, c'est simple. Un verset, une petite péricope, et de leur présenter. Leur présenter qu'est-ce qui en retiré. Qu'est-ce que veut dire Jésus par ses paroles? Aussi leur montrer que la prière, on n'est pas en train de parler au plafond. Et donc, si on prie régulièrement avec eux, ils vont voir que vraiment, nous, on croit qu'on parle à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu trois fois saint, qui nous entend, qui nous écoute et qui nous répond. Autre chose où vraiment j'essaye de mettre un accent je suis responsable jeunesse avec Clémence et notre sœur Agape, et nos jeunes, mais même des fois les enfants, ils ont des questions. Et si on ne répond pas à leurs questions, ils vont trouver que c'est bizarre. Moi, quand j'étais petit, je disais, mais pourquoi Jésus, il a marché sur l'eau? C'est quoi ce truc? Même dans Disney, ils ne font pas ça. Disney, il y a de la magie, il y a plein de choses, mais pourquoi Jésus, il marche sur l'eau? Et on ne m'a pas répondu à ma question. Donc je me suis dit, en fait, peut-être c'est des histoires inventées, ils essayent de m'avoir. En fait, Jésus, il a marché sur l'eau, il y a plusieurs raisons, mais pour montrer qu'il était Dieu. Parce que seul Dieu peut défier les éléments. Si tu marches sur l'eau, tu passes à travers, mais Dieu, lui, peut dire, mais non, c'est moi qui ai créé toute chose. Donc je peux marcher sur l'eau si je dis que je marche sur l'eau. Mais vous voyez, les jeunes, ils ont plein de questions. Les enfants ont plein de questions. Et peut-être, des fois, on n'a pas la réponse. Et je pense peut-être aux mamies, ton petit-fils, ta petite-fille n'est pas là, et des fois, tu lui parles de Dieu, et il te pose une question, et tu dis, oh là là, bien, on va voir Henri, on va voir Mickaël, on va voir les frères, les sœurs qui pourraient répondre à cette question. Et on leur répond. Et ils vont dire, ok, on me prend en sérieux là, j'ai eu ma réponse. Alors on les complimente souvent aussi nos enfants quand ils ramènent des beaux bulletins, ou des beaux points, ou des bons résultats sportifs. Ah, t'es premier, t'es un champion. Mais est-ce qu'on prend le temps de les complimenter quand ils ouvrent la porte pour quelqu'un, quand ils rendent service à quelqu'un, quand ils rendent un service à un camarade de classe? En fait, quand ils agissent plus pour les autres que pour eux-mêmes. Ça, c'est intéressant. Comme Jésus. Tu peux lui dire, mais, tu vois, Jésus, il avait une attitude comme ça. Il préférait prendre du temps pour les autres que pour lui. Après, il y a des idées aussi pour l'assemblée. Je ne sais pas si des fois, il y a un café ou avant ou après le culte, ou même peut-être en groupe des maisons. On peut les inviter à, allez, viens avec. Viens avec même le papa ou peut-être viens avec le frère. Et tu sers le café ensemble. Les inviter à montrer la valeur du service. Ce n'est pas ce qui va les convertir. Mais ils vont voir ce qui règne dans notre cœur. Des fois aussi, c'est aussi le sens de ce qu'on met par rapport au culte. Le moment où on se réunit. Parce que oui, nous, on vit notre temps de culte entre adultes. Mais chaque dimanche, on l'a entendu tout à l'heure, il y a deux groupes. Bientôt trois avec ce que les collégiens vont arriver. Et il y a des gens qui préparent un enseignement solide, sérieux, adapté pour eux. Mais si on néglige, chaque dimanche, on dit, bon, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Mais ils ne vont pas recevoir. Ils ne vont pas recevoir cet enseignement qui a été préparé pour eux, spécialement. Et enfin, et ça, c'est par rapport à la situation actuelle de l'Église, clairement, les inscrire au flambeau et soutenir ce projet. Alors, tous les enfants de Gap ne sont pas au flambeau. Il y en a, ils essayent, et puis ça ne leur convient pas. Pas de souci. Il y a le groupe de jeunes, il y a d'autres camps, on les invite l'été à faire d'autres camps. Tout ne doit pas tourner autour des flambeaux éclaireurs, non. Mais au moins, essayez. Parce que je vous le dis, l'Évangile est prêché. Et des fois, le fait de dire, bah, tiens, camarades de classe, alors ils ne peuvent pas inviter comme ça à l'école. Mais par contre, des fois, avec le rapport avec les parents, bah, voilà, nous, on a les flambeaux à l'église, viens essayer. Et on ne leur cache pas. On partage l'Évangile. Ils font des jeux dans la forêt. Voilà le sens des bonnes valeurs, discipline. Mais souvent, les gens connaissent. Et le groupe flambeau va grandir. Et enfin, et ça, encore une fois, ça concerne toute l'Église. Prions pour que Dieu agisse dans leur cœur, par sa grâce, le plus tôt possible. Et qu'ils soient, quoi qu'ils fassent dans leur vie, qu'ils soient avocats, médecins, pasteurs, tout ce qu'on veut mettre derrière, tout ce qu'on veut, mais qu'ils soient des serviteurs de Christ. J'aime bien quand j'entends des jeunes qui me disent, voilà, je sais que je dois faire quelque chose. Je veux ce métier-là. J'ai ma nièce, en ce moment, elle me dit, ben moi, je vais faire prof d'anglais, parce que de un, j'aime bien l'anglais, donc ce n'est pas quelque chose qu'elle n'aime pas. Elle aime l'anglais, mais elle dit, je vais avoir des vacances, et les vacances, je vais servir dans les camps. Je dis, waouh, si j'avais eu cette sagesse-là à ton âge. Mais ce n'était pas mon histoire, c'était la sienne. Moi, j'étais touché à l'âge de 24 ans. Mais donc voilà, en conclusion, je vais vous dire que quand j'ai lu ce chapitre, ça m'a fait le même effet que, je ne sais pas si vous avez déjà lu Crazy Love de Francis Chan. Francis Chan, c'est l'amour fou, hein, voilà. Ce petit livre de Francis Chan, c'était au début de ma conversion. Je me suis dit, oh, Francis Chan, il n'y a pas de demi-mesure, quoi, il est radical. Mais en fait, cette radicalité m'a fait du bien, m'a transformé. Et ce livre, pour la parentalité, mais aussi en tant que nous, en tant qu'Église, parents ou grands frères, grandes sœurs dans la foi de ces enfants que Dieu nous confie, eh bien, il semble radical. Mais je veux vous dire que je vois beaucoup d'exemples autour de moi de familles qui servent le Seigneur de tout leur cœur, où les enfants grandissent au milieu de tout ça. Et je ne vois pas de problème scolaire. Si, peut-être, parce que l'enfant a une difficulté, mais il l'accompagne. Je ne vois pas de négligence, de déséquilibre. Je vois qu'ils vivent de belles choses et qu'ils mettent les choses à la bonne place. Ils vivent plein de choses, randonnée, sport, mais à la bonne place. Et une deuxième chose que j'aimerais vous interpeller, là c'est par rapport à ce texte, c'est que ce texte peut nous en faire tomber dans un piège, et j'ai fait exprès de ne pas lire le verset 10 que nous allons lire maintenant. Donc, Dieu a dit cela au peuple, hein, le texte que j'ai lu plusieurs fois, et voici comment il finit. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il t'a promis, par serment à tes ancêtres d'Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, tu trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Le problème avec le texte du Deutéronome, c'est qu'on pourrait essayer de vivre encore dans l'Ancien Testament. Le Seigneur s'est révélé à nous. Femmes, enfants me sont donnés, carrière, et puis maintenant une maison, et puis maintenant j'attends l'éternité. On a le droit d'avoir une maison, on a le droit d'avoir un appartement, on a le droit d'avoir un chez-soi. Mais les demeures dont il est parlé dans ce texte à la lumière du Nouveau Testament, ce n'est pas d'ici. On ne va pas les construire, ces maisons-là. On va être un jour dans une cité que Dieu a préparée, et pas pour 20, 30 ans en voyant « Ah là, il y a une crevasse qui est en train de se faire, une fissure, ah là, il faut refaire la gouttière. » On va se rappeler qu'on a envie un jour de les quitter, ces maisons, ou ces appartes. Mais celle-là, l'éternité avec Dieu, ah, oh, waouh, comme ça va être magnifique. On va le vivre avec l'église de Cré. Vous savez quoi? On va le vivre aussi avec l'église de Gap et avec les autres. Mais vivons-le. Avec équilibre, bien sûr. Mais que Christ soit notre motivation dans ce monde. Que Christ soit notre motivation dans ce monde. Allez, prions. Ah Seigneur, quel Dieu de grâce, quel Dieu d'amour. Seigneur, quand on peut essayer d'imaginer, Seigneur, ce qui nous attend pour l'éternité. Une nouvelle terre, de nouveaux corps, plus de défaillance, plus de mal, plus mal, plus de larmes. Ah Seigneur, on a envie de partager cette bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait. Au Crétois, aux gens autour, dans cette région. Seigneur, on veut le partager aussi à nos enfants. On veut répondre aux questions qu'ils ont, Seigneur. On veut répondre aussi aux questions de ceux et celles qui ne te connaissent pas encore dans cette région. On veut prendre le temps. Et on sait, Seigneur, en regardant au Fils, tout service est un sacrifice. Que ce soit de temps, d'énergie, des fois ça va même nous abîmer le corps. Seigneur, merci parce que tu nous as montré l'exemple par excellence en Jésus-Christ. Tu peux nous dire, soyez mes serviteurs comme moi-même. J'ai été serviteur. Seigneur, je te remets encore toute personne aussi qui, peut-être dans cette salle, n'aurait pas encore réalisé cela. Qui ose poser ces questions. Et nous voulons répondre. Selon ta parole vivante qui touche, qui transforme les vies. Gloire à ton Saint-Nom. Amen.